La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici Pierre-Yves McSween.
Premier sujet avec notre ami Pierre-Yves ce matin, testament et succession.
Oui, il y a une chicane ce matin qu'on voit dans la presse entre une succession et un gestionnaire, un fiduciaire, si tu veux, de succession. Et je me suis dit, ah, quelle belle occasion de parler des erreurs à ne pas faire. Et je parle des erreurs parce que c'est un jugement de valeur, parce que on a le droit de faire ce qu'on veut avec notre argent, mais il y a des erreurs. Par exemple, la première, faire trop confiance à l'amour. Je te donne un exemple. Non, mais je sais que ça a l'air cynique, mais...
Tu pars solide.
Je pars solide, c'est parce que il y a des gens qui ont des frustrations envers leurs parents. Je te donne un exemple. Monsieur fait de l'argent, un cas classique, se sépare ou son ex décède, puis il sort avec une plus jeune. Bon, jusque-là, ça va, ça fait partie des mœurs puis des réalités, mais les enfants se retrouvent déshérités à 100%. C'est-à-dire que le monsieur dit à ses enfants, « Je lègue tout à ma blonde. » Les enfants disent, « T'as beau avoir vécu 10 ans avec, mais hey, c'est mon argent, j'y lègue tout. Quand cette personne-là mourra, elle vous lèguera de l'argent elle aussi. » Le problème là-dedans, c'est que si tu meurs, puis que tes enfants sont déshérités, mais que tu penses qu'ils vont être hérités par la personne qui va recevoir ton argent, il n'y a rien de garanti. Et donc, dans une planification successorale, lorsque des enfants d'un premier mariage ou d'une première union, c'est toujours bon de dire « je vais séparer mes affaires en deux ». C'est-à-dire, je vais en laisser directement aux enfants, puis à la nouvelle conjointe ou au nouveau conjoint. Parce que il y a des gens qui sont trop en amour, puis que... ils oublient que leurs enfants peuvent être totalement déshérités au profit des enfants de l'autre personne qu'elle pourra peut-être avoir avec une autre union. Donc ça, c'est l'amour, c'est il y a une confiance, mais il y a une demi-confiance.
OK. Première erreur. Deuxième.
Deuxième. Surplanifier votre succession. Puis c'est un peu le cas dans le journal aujourd'hui. La personne décide pour ses enfants et ses petits-enfants sur plusieurs décennies. Ben le problème là-dedans, c'est qu'il faut se faire un constat. C'est que quand on va mourir, nos héritiers vont ultimement faire ce qu'ils veulent avec l'argent. Oui, tu peux surplanifier. Oui, tu peux contrôler comment ils vont la dépenser pendant plusieurs années.
Tu peux déterminer l'âge à partir du... En fait, le moment où ils ont le droit à l'argent, ouais, tel montant. Ben bon.
Moi, j'ai fait ça 21, 25 ans. Moi, ça, c'est correct.
Ouais.
Mais, tu sais, tes enfants, tu vas les aider, puis tes petits-enfants, quand ils vont avoir 20, 25 ans, 30 ans, pas quand ils vont avoir 50, 8 ans. Donc, tu sais, t'as beau te battre avec la première génération, puis dire, je vais contrôler la première génération pour pas qu'ils dilapident mon argent. Mais si c'est pas la première, ça va être la deuxième. Puis si c'est pas la deuxième, ça peut être la troisième. Donc, faut faire un acte de foi à un moment donné et ne pas surplanifier. Troisième erreur, laisser un héritage flou ou mal documenté. Tu sais, un testament non notarié, ça, c'est correct, là. Holographe, ça fonctionne. Mais il faut que tu le fasses approuver, il faut que tu le fasses identifier, faut pas qu'il soit contesté. Moi, je connais des gens qui ont vécu ça récemment, d'avoir à faire le processus d'authentification de l'écriture de la personne, puis c'est juste du trouble pour rien. Et l'autre point, moi j'ai fait ça, pas, je sais que les gens vont me trouver freak un peu, j'ai un classeur, puis là-dedans, il est marqué où sont mes actifs, où sont mes passifs, quels sont mes REER, à quelle institution, où sont mes CELI. Tu sais, t'as les documents de la maison, les transactions, le coût fiscal de l'immeuble à revenu dans lequel tu habites, il est rendu à combien, tes assurances-vie, le nom de ton comptable, où est le REE de l'enfant?
C'est comme si tu mourais demain.
Oui, mais ça, c'est super important. Faites-vous un dossier de décès. Je meurs, voici. Parce que, écoute, imaginez, là, vos proches sont dans le deuil, puis là, il faut qu'ils cherchent vos REER. Ah oui, c'est vrai!
Il y a de l'argent où, lui, là?
Il y a des gens dans les médias, pas du monde pas informé, là, qui m'ont déjà demandé. Écoute, j'ai contribué à un REER en 87, mais ou 92, mais je sais plus dans quelle banque. Excuse-moi, là. Toi, t'as 10 000 de REER qui traînent depuis 20 ans, là, puis tu sais pas si où. Non, je checkais pas ça. Donc, il y a des gens qui sont, de leur vivant, savent même pas où est leur argent. Hey, voulez-vous vraiment laisser votre argent aux banques à curatelle publique puis que vos enfants ne le retrouvent jamais, ou même aux compagnies d'assurance? Non. Et donc, il faut trouver son argent avant ses héritiers.
On n'aura pas le temps de faire toutes les conséquences. Mais non, mais tu peux en garder pour demain, là.
Oui.
Les conséquences fiscales et financières, je t'assure, de la cohabitation amoureuse.
Oui, là, à cause d'hier, là, ma patente de rap, évidemment, ça a allumé beaucoup de monde. Je t'en donne en rafale à la Paul Arcan. Premièrement, oui, la perte d'allocation subventionnée, évidemment, j'en ai parlé souvent, mais je vous le dis, si vous avez des enfants, vous faites un nouveau chum, une nouvelle blonde, ça peut vous coûter 5, 6, 7, 8, 10 000, dépendant de votre situation, par année, non imposable, donc c'est beaucoup d'argent. Deuxième conséquence, très importante aussi, la contamination du RAP, j'en ai parlé hier, donc celle-là, je la saute, mais la perte de crédit d'impôt. Tu sais, vous êtes une personne vivant seule. Vous avez peut-être droit au crédit d'impôt pour personne vivant seule. Vous avez aussi droit au crédit d'impôt pour solidarité. Mais si vous rentrez quelqu'un dans votre vie, vous risquez de défoncer le plafond et ne plus être solidaire avec personne. tu pourrais aussi, si t'es à la retraite, autre conséquence, tu vas perdre ton supplément de revenu garanti possiblement. Tu sais, tu tombes en amour à 65 ans, ça se peut. Hein, l'amour n'a pas d'âge.
Bien sûr.
Et que t'as un supplément parce que t'as un petit revenu. Ben, si tu te matches avec quelqu'un, assure-toi qu'il y a un bon revenu parce que tu vas perdre un supplément. Et donc, faudrait qu'il contribue plus pour la perte de supplément si t'en avais un. Là, je vais te parler d'une chose qui s'appelle l'exposition au risque de l'enrichissement injustifié ou l'enrichissement sans cause. Mettons que tu es une femme d'affaires, puis que tu as une business, ou que tu pars une business pendant que tu es avec une nouvelle personne, un conjoint de fait, et que tu n'es pas marié. Tu dis, on a chacun nos affaires, on s'aime, mais c'est business séparé. Mais que l'autre personne, au moment de la séparation, juge que tu t'es enrichi sur son dos. C'est-à-dire qu'elle juge que cette personne-là, ça peut être au niveau familial, mais juste de dire, grâce à moi, cette personne-là s'est enrichie et donc elle doit me dédommager. Ça, ça peut être démontré. Même si t'es conjoint de fait, tu peux avoir à payer un chèque. Donc, avant de tomber en amour avec quelqu'un, puis dire, on est conjoint de fait, c'est pas grave. Tu sais, devenez pas multimillionnaire, ça pourrait vous revenir d'en face.
J'ai contribué à son enrichissement. Il y a son entreprise à prospérer parce que, je sais pas, j'ai fait la comptabilité, je l'ai aidé.
Ben, ça peut être aussi, je me suis occupé des enfants, puis là, effectivement, aussi. Là, ça tombe dans le réel. Mais la loi, maintenant, a des jugements là-dessus. L'accès au roulement fiscal au décès, ça, c'est le fun, par contre, Paul. Si tu meurs, ou si je meurs, mettons, là, pas trop, je te parle pas personnellement, mais quand on devient conjoint de fait, on vient te rendre l'autre heureux fiscalement, parce que je peux y transférer des actifs au coût fiscal. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un immeuble à revenus, je meurs, je peux rouler ça à mon conjoint ou ma conjointe, puis cette personne-là ne paiera pas l'impôt sur le gain tout de suite, mais juste à la disposition. Même chose avec le REER. Je meurs, j'ai 200 000 de REER, tu roules ça à ton conjoint de fait, puis le conjoint de fait peut s'être imposé juste quand il va le retirer. Peu importe son plafond à lui ou à elle. Donc, il y a quelque chose de beau là-dedans. Être conjoint de fait, c'est devenir un citoyen fiscal intéressant. Et dernière affaire importante, je vous passe au travers, si vous êtes conjoint de fait, d'un matin, là, vous rentrez en condo avec quelqu'un, est-ce que vous avez parlé d'assurance médicaments du régime privé du conjoint? C'est important, ça. Parce que vous êtes couvert par l'assurance du Québec, l'assurance médicaments du Québec, Paul, si et seulement si vous avez aucun autre régime privé potentiel accessible.
Mais oui.
Mais dès que vous êtes conjoint de fait, vous avez droit de payer pour contribuer. Donc, après la première soirée d'amour dans l'appartement, ça serait important.
Parlons de régime de assurance médicaments, maladie.
Ben oui, puis là, votre conjoint va être obligé de contribuer pour vous puis payer une prime pour prendre la couverture familiale. Et donc, faut quantifier le montant supplémentaire à payer pour dédommager son conjoint du fait qu'il paye maintenant une assurance pour vous parce que le gouvernement le fera plus.
J'ai compris ton principe de vie générale. Quand le cœur bat, la tête doit continuer de compter.
Ou quand le cœur bat, le portefeuille shake.
Encore meilleur. Salut.
C'est 23.